Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 février 2025. Trump est de retour. Les marchés tremblent, les marchés vibrent, mais elles ne rompent pas pour l'instant. Résistance ou résilience, on ne sait pas, peu importe. Mais en tous les cas, Wall Street nous donne une leçon de survie en ce moment. C'est assez impressionnant. D'un côté, vous avez les droits de douane qui pleuvent sur l'Europe. Pernod Ricard qui déprime. Tout le monde qui se demande si l'homme à la cravate rouge et aux cheveux oranges va encore nous inventer quelque chose de nouveau. De l'autre côté, Google et AMD déçoivent, mais heureusement, Nvidia sauve le monde entier avec un rebond spectaculaire grâce à l'intelligence artificielle. Et pendant ce temps, eh bien, Total Energy, Disney, Uber, ils font les montagnes russes qui prouvent encore une fois que la saison des résultats, c'est un vrai grand 8. Mais alors, pourquoi le S&P 500 flirte avec les records historiques au milieu de tout ce merdier, on peut dire? Et surtout, est-ce que les investisseurs savent ce qu'ils font ou est-ce qu'ils sont simplement en train de jouer à la roulette russe? Alors, restez avec moi, on fait le point dans la vidéo juste après le générique. Alors quand on regarde les niveaux des indices à la clôture hier soir, la photo est plutôt encourageante si on tient compte des craintes qui pèsent encore au-dessus de nos têtes, hein. Craintes d'ailleurs qui devraient durer encore 3 ans, 11 mois et 2 semaines, parce qu'on a tous compris que tant que Trump serait aux commandes, eh bien on va devoir vivre avec cette épée de Damoclès dès qu'il va s'énerver sur un truc évidemment. Puis là pour le moment il est très très énervé visiblement, il a beaucoup de choses à mettre en place au début de son mandat. Mais malgré ces tensions sur les risques éventuels à venir et les mauvais chiffres de certaines sociétés, en tout cas les déceptions sur les chiffres de certaines sociétés qui représentent une grosse partie des indices américains, on s'en a quand même vachement bien sorti hier. Alors l'Europe, bien sûr, ne finissait pas en grande forme, puisqu'on le sait, les deux poids lourds européens craignent toujours ce que le président américain va leur balancer au travers de la figure au sujet des taxes douanières. Et si on se réfère à ce qu'il a annoncé et ce qu'il a fait pour le Canada, le Mexique et la Chine, eh bien on peut se douter quand même qu'il va nous sortir un truc mais vendredi soir, après la clôture des marchés européens, histoire de ramener sujet sur la table. Nos amis et nos voisins européens ont donc majoritairement traité dans le rouge pour montrer la crainte de la réaction américaine, sans compter qu'il y a des boîtes comme Pernod Ricard qui s'est montré hyper désabusé à propos des perspectives d'avenir. Ils ont expliqué que la situation économique, politique, géopolitique, c'était beaucoup trop compliqué pour eux afin de prévoir l'avenir, prévoir quoi que ce soit. Donc du coup, ils étaient très très prudents. Le vendeur de spiritueux prend donc parti pour ces prochains temps de naviguer à vue et advienne que pourra pour la suite, hein, les commentaires désabusés du management donnaient l'impression que les gars ils étaient carrément en burn-out. Donc du coup ça a mis un peu la pression sur le titre qui était le plus gros loser du CAC 40 hier. Mais encore une fois, le maître mot de toutes les réflexions au sujet des marchés européens restait: qu'est-ce que le bonhomme orange va nous faire ces prochaines semaines? Et surtout, la grande question qui est aussi: comment vont réagir nos élites? Bref, l'Europe était légèrement en baisse et s'interrogeait sur la suite des événements made in Maison Blanche. On notera encore l'explosion au passage de Valneva qui a annoncé que la FDA version britannique a autorisé la mise sur le marché de son vaccin, le Ixchiq, qui est le seul au monde à lutter contre le chikungunya. Donc c'est sa quatrième autorisation après l'Europe, le Canada et les États-Unis. Le titre prenait donc 17% sur la nouvelle et donc j'en profite pour me demander encore une fois: pourquoi est-ce que les scientifiques qui développent des médicaments ou des vaccins mettent à chaque fois un point d'honneur à trouver des noms complètement délirants, comme dans le cas présent, le Ixchiq, alors I-X-C-H-I-Q. Mis à part pour gagner au Scrabble, je vois vraiment pas l'intérêt. Là, ils ont mis 6 lettres, dont 2 voyelles, qui sont les mêmes, et 4 consonnes, dont le Q et le X. Franchement, à mon avis, la seule raison pour laquelle ils ont choisi un nom pareil, c'est parce qu'ils voulaient gagner au Scrabble. Sinon, je vois pas l'intérêt. Ils auraient pu simplement appeler ça vaccin contre le chikungunya le plus performant du monde. Ça aurait suffi largement. Ok, tu peux pas le placer sur le plateau du Scrabble, mais quand même, ça aurait été plus prononçable. Autrement, hier, il y avait Total Energy qui a publié un bénéfice en baisse de 21% pour 2024. Ils ont annoncé que l'environnement de marché était moins favorable que l'année précédente, 2023. Par contre, cette mauvaise nouvelle, il faut le reconnaître, avait été largement anticipée. Parce que si vous regardez la performance du titre depuis l'été 2024, eh bien, on avait déjà perdu 30% entre les plus hauts et les plus bas. Donc on peut se dire qu'on avait déjà discounté un peu tout ça. Eux, ils ont annoncé des prévisions au niveau du baril à 70 dollars pour l'année 2025 en moyenne. Ils vont continuer à investir dans les énergies renouvelables. Et par contre, ils veulent définitivement aller se faire coter à New York. Mais mais sans froisser la France. Alors là, on verra comment ils vont réussir à faire ça sans froisser la France. Et le patron de Total a également rejoint Bernard Arnault sur le sujet qu'il est impossible d'investir et de se développer en France avec cette politique fiscale et économique de bras cassés qui est menée actuellement. Alors bien sûr, c'est pas vraiment ses vrais mots, mais l'idée est quand même bien présente au fond. Ce qui est assez intéressant avec Total, c'est qu'à chaque fois qu'il publie des résultats records et des résultats spectaculaires, vous avez toute la gauche qui est devant le siège de Total pour hurler au scandale et réclamer la tête du CEO. Et puis, quand les bénéfices y baissent comme hier, ben, tout d'un coup, c'est beaucoup plus calme et il n'y a plus personne pour la ramener. C'est quand même assez étonnant. Du côté des USA, la réflexion n'était pas tout à fait la même. On a déjà oublié le concept des droits de douane. Et puis surtout, je crois qu'on a bien compris que ce que Trump est en train de faire aujourd'hui, c'est surtout utiliser les tarifs comme un levier, comme une arme pour essayer d'obliger ses partenaires commerciaux à trouver un compromis plus rapidement qu'en allant se faire des sommets à répétition dans les hôtels de luxe aux quatre coins du monde. Donc du coup, bah, on s'est posé des questions sur d'autres choses. On a vu que les discussions avec la Chine ne bougeaient pas, donc on est passé à autre chose. On s'est reconcentré sur les chiffres économiques et les chiffres du trimestre. Alors pour ce qui est des chiffres économiques, on a eu la première publication d'un chiffre de l'emploi sous Donald Trump. C'était les chiffres de l'ADP. Alors selon ce rapport, le secteur privé a créé 183 000 emplois en janvier. Ensuite, ils ont révisé à la hausse les chiffres de décembre. 176 000 contre 122 000 précédemment. En gros, meilleur que les attentes et surprise à la hausse sur les anciens chiffres. C'est vraiment étrange parce que quand vous regardez le type de publication des chiffres de l'emploi sous Donald Trump, c'est exactement l'inverse de ce qui était plus ou moins cité sous Biden où ils n'arrêtaient pas de réviser à la baisse. Alors de là à dire qu'il y a deux méthodes de calcul différentes, je ne sais pas. Je ne franchirai pas la frontière en tous les cas. Mais du coup, on s'est tout de suite dit que ça n'augurait rien de bon pour une éventuelle baisse des taux un de ces jours. Alors il faut dire qu'actuellement, les espoirs de baisse des taux, ils sont tout petits. On sait aujourd'hui que pour le prochain meeting de la Fed, on s'attend à 16% de probabilité de baisse des taux. Alors heureusement, hier soir, le marché obligataire s'est davantage concentré sur l'annonce du département du Trésor qui n'accélérerait pas ses émissions de dettes ces prochains mois, donc on était un petit peu soulagé là-dessus. Pour le reste, eh bien, il a donc fallu gérer la baisse de Google qui pesait massivement sur le secteur des Magnificent Seven et sur les indices, mais Eureka, il s'est passé quelque chose d'assez magique. Les intervenants ont considéré qu'au milieu des déceptions de Google, eh bien, il y avait une bonne nouvelle, les investissements massifs annoncés par Google dans ce secteur de l'intelligence artificielle. Investissements massifs qui vont bien sûr profiter à Nvidia. Alors la hausse du roi de l'IA hier a compensé un peu les mauvaises performances de Google et d'AMD. Et pour le reste, eh bien, on s'est concentré sur les chiffres trimestriels. Et dans la longue liste des annonces d'hier, on retiendra Uber qui a annoncé un chiffre d'affaires meilleur que les attentes, avec un bénéfice net de 6,88 milliards contre 1,43 il y a un an. Mais par contre, bien sûr, ils ont annoncé que ces bénéfices étaient essentiellement dus à des éléments exceptionnels. Dans la foulée, les analystes ont été déçus par la croissance et s'inquiètent de l'arrivée des robots taxis que Musk nous promet tous les 3 mois. Uber a donc perdu 7% durant la séance d'hier. Chez Disney, on a fait mieux qu'attendu un peu partout dans toutes les zones du bilan. Le titre baissait pourtant de 2,4% durant la séance. Alors comme d'habitude, il fallait creuser le sujet un peu plus loin puisque les vendeurs se sont acharnés sur Mickey et Donald à cause de la baisse de leurs abonnés sur Disney+. Ce qu'on peut d'ailleurs largement comprendre quand on voit ce qu'ils offrent comme contenu. En résumé, les chiffres sont bons, mais les marchés se concentrent surtout sur les abonnés dans le domaine du streaming. On attendait un Netflix moment, comme on a vécu lors de la publication de Netflix il y a quelques semaines. Et puis, il y a aussi MicroStrategy qui a publié une 4e perte trimestrielle consécutive. Bon, là, il faut dire qu'ils ont simplement comptabilisé une charge de dépréciation sur leur stock de crypto-monnaie. D'ailleurs, ils ont que ça, hein, un stock de crypto-monnaie. Et dans la foulée, ils ont aussi annoncé qu'ils avaient encore levé 600 millions de plus pour acheter du Bitcoin et que, dans la foulée, bah, ils changeaient de nom. Et ils se nomment dorénavant pas Bitcoin, mais Strategy, avec un logo qui est un B pour rappeler leur business plan principal. C'est pas un B comme business plan, c'est un B bien sûr comme Bitcoin. MSTR était donc en baisse d'un peu plus de 3% after close et le Bitcoin est à 97 900. Il faudra s'habituer à dire stratégie. Après la clôture, il y a Ford aussi qui a publié son trimestre, globalement battu les attentes, mais par contre ils ont prévenu que 2005 ça serait pas facile du tout. Alors la stratégie électrique va peser énormément sur leurs coûts, leurs investissements, leurs marges et ça sera donc pas du tout facile. Ils avaient presque l'air aussi motivés que le management de Pernod Ricard, donc Ford perdait 4,5% après la clôture. À 22h hier soir, on a également eu droit aux publications trimestrielles de Qualcomm, qui ont publié des chiffres meilleurs que les attentes, mais qui souffrent et qui vont souffrir du fait que Apple va progressivement consommer moins de leurs semi-conducteurs, le titre étant en baisse de 4,5%, et puis aussi, toujours dans le même secteur, Arm Holding a également publié des chiffres corrects, mais une guidance optimiste, mais pas assez optimiste pour les analystes, les intervenants, donc le titre perdait 7% after close. Ce matin, on peut donc résumer le comportement des marchés asiatiques de la manière suivante. Ça monte à cause de l'optimisme sur l'IA, mais la crainte d'une guerre commerciale Chine-USA limite la hausse. Le pétrole, parlons 2 secondes du pétrole, lui, il souffre également des tensions avec la Chine, les tensions commerciales bien sûr, il se traite à 71$ et des poussières, et puis on retiendra aussi que les inventaires pétroliers qui ont été publiés hier soir étaient bien plus forts que les attentes. Ça s'explique assez logiquement parce que chaque fois qu'on arrive dans ces périodes de l'année, les sociétés de raffinerie ralentissent parce qu'ils doivent nettoyer leurs usines pour se préparer à la saison du printemps, et donc du coup ils commandent moins de pétrole, résultat il y a un peu plus d'offres qui restent disponibles et moins de demandes, résultat petite pression sur le baril en ce moment. Autrement, le secrétaire du Trésor, monsieur Scott Bessent, a déclaré que Trump n'avait aucune intention de pousser la Fed à baisser les taux, mais qu'il voulait simplement que les rendements obligataires soient plus faibles sur les bons du Trésor. Vraiment, il veut payer moins d'intérêts sur sa dette. On est soulagé de savoir qu'il va pas braquer un flingue sur la tempe de Powell, c'est déjà pas mal. Et puis en Europe, de nouvelles estimations du taux neutre. Alors, le taux neutre, c'est un niveau théorique qui ne pousse pas l'économie à la surchauffe, ni ne la freine. Donc c'est le taux mythique idéal, c'est un rêve absolu que chaque banquier central espère atteindre un jour dans sa carrière. Donc, de nouvelles estimations du taux neutre pour l'Europe devraient être publiées vendredi, et là-dessus, Christine Lagarde a rebondi et déclaré qu'elle et ses collègues allaient travailler sur ce document pour aider à déterminer, je cite, quelle devrait être l'orientation de la politique monétaire de la BCE. En résumé, on devrait en savoir plus sur le plan de baisse des taux de la Banque Centrale dans pas longtemps, et on y verra encore un peu plus clair, en tout cas en Europe, quand même plus facile qu'aux États-Unis. Pour ce qui est de la journée qui nous attend, eh ben on aura les chiffres de Eli Lilly, dans la foulée de ceux de Novo Nordisk, qui ont été publiés hier et rassurés un peu sur les médicaments contre l'obésité. Et puis ce soir, il y aura Amazon, qui publiera After Close, bien sûr, c'est le gros truc de la journée. C'est l'avant-dernier Magnificent Seven qui publiera avant Nvidia, qui viendra le 26 février, et juste avant le dernier des Batman, Broadcom, qui publiera le 28 février. En France, ce matin, on regardera les chiffres de L'Oréal, de la Soggen. D'ailleurs, la Soggen vient juste de publier avant cette vidéo. Ils annoncent un bénéfice qui a doublé à 1,04 milliard, et ils annoncent un rachat d'actions de 872 millions d'euros. Apparemment, la banque de détail fonctionne pas mal en ce moment en France. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les jobless claims aux USA et les factory orders en Allemagne. Demain, c'est non-farm payroll. Ça sera vraiment intéressant, à moins que Trump s'attaque à l'Europe entre deux pour masquer les chiffres. Du coup, pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,24% et on se rapproche toujours un peu plus des records historiques sur le S&P 500 malgré une saison médiocre au niveau des big names de la tech, comme le montre le graphique que vous voyez à l'instant. Pour le reste, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Soyez forts et puis n'écoutez pas trop le bruit assourdissant des médias financiers. Fiez-vous de temps en temps à vos opinions et à vos instincts. Des fois, c'est pas plus mal et vous vous rendrez assez rapidement mon compte qu'il faut pas toujours écouter n'importe qui et n'importe quoi, ou l'inverse, que le type assis en face de vous au bar a sa propre opinion et que des fois il est pas forcément ni meilleur ni moins bon qu'une star de Wall Street, et que surtout vous avez des fois pas forcément tort. Demain matin, il n'y aura pas de morning bull parce que je serai en balade, mais par contre, je vous ai prévu une vidéo qui aura pour sujet « L'intelligence artificielle va-t-elle détruire les bourses mondiales ?» Elle sera publiée à 00h01. Et moi, je vous retrouverai samedi pour un nouveau Swiss Bliss où on va se rejouer la semaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français et d'activer la cloche pour ne pas rater la vidéo de demain. Et puis autrement, likez, partagez, commentez, et à demain ou à samedi ou à lundi pour le prochain Morning Bull Live. Bonne journée à tous. Bye bye.